Bonjour à tous, nous retrouvons Sœur Catherine, supérieure générale de la congrégation Notre-Dame de Fidélité. Nous nous sommes donné rendez-vous à la Maison Mère à Douvres-la-Délivrante. Bonjour ma sœur.
Bonjour à tous, bonjour Sonia.
Alors est-ce qu'on peut revenir toutes les deux sur la mission spécifique de la congrégation Notre-Dame de Fidélité et son charisme propre? Trois mots, je crois, synthétisent vraiment toute cette dimension que vous voulez donner, cette dimension à la fois spirituelle et pédagogique. Accueil, éducation, catholicité. Chaque mot représente l'une des missions importantes de votre congrégation et elle se concrétise aussi au quotidien par vos actions, par vos missions. Est-ce qu'on peut commencer par l'accueil? Comment est-ce que l'accueil s'est manifesté au sein de la communauté et comment aujourd'hui vous vivez encore cette réalité-là?
Je ne sais pas si l'accueil était la priorité. Aujourd'hui, en tout cas, c'est certainement un élément tout à fait important. Nous essayons dans chacune de nos maisons, mais à la Délivrande en particulier, à travers l'espace Caïré, d'accueillir soit des groupes, soit des personnes individuelles qui ont besoin d'un temps de prière, de repos, de décompression, pour se remettre debout. C'est vrai qu'à l'espace Caïré, c'est plutôt des groupes diocésains ou bien de communautés nouvelles. C'est assez variable.
Et puis, bien sûr, éducation, en référence à toute l'action que vous menez au sein des établissements. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'histoire, justement, du lien entre la congrégation et les établissements scolaires?
Alors, en France, à la Délivrande, les pensionnats, comme on disait alors, ont été développés à partir de 1845 à peu près. On est sur Bayeux, Jeanne d'Arc de Bayeux, mais ça c'est beaucoup plus tard. On est resté. La communauté a travaillé là-bas sur la seconde moitié du XXe siècle. Nous gardons le lien avec la tutelle, il faudra que je vous explique probablement, à Bayeux. Nous avons le lycée Notre-Dame de Fidélité, lycée technique et professionnel, au nord de Caen, également sous tutelle, dans l'Orne, un établissement, Bignon à Mortagne-au-Perche, et puis dans le Jura, deux établissements, à Champagnole et à Salins-les-Bains. Nous avons des écoles en Angleterre, en Italie, en Belgique, et si vous le voulez, je peux vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, parce que finalement, c'est par le biais des écoles que nous avons été invités à aller nous installer dans ces pays, à commencer par l'Angleterre. Alors aujourd'hui, c'est le Brexit, le triste Brexit, mais au contraire, en 1848, on parlait de possible révolution en France, donc les sœurs ont pris les devants et sont parties s'installer dans la région de Londres. Et très vite, elles ont trouvé une propriété qui permettait d'installer à la fois un orphelinat, comme c'était déjà le cas à la Délivrande, et puis un pensionnat. Et un peu plus tard, mais là c'est 50 ans plus tard, c'est au moment de la loi Combe, vous savez, loi de séparation entre l'Église et l'État, que à nouveau elles ont compris qu'il valait mieux s'expatrier plutôt que d'être anéanties, en tout cas en termes éducatifs. Elles sont parties s'installer à Foxton. Et c'est à Foxton que quelques années plus tard, au moment de la guerre de 14, le gouvernement belge étant en exil au Havre, ces messieurs, pour leurs enfants, cherchaient une école. On leur a dit, mais il y a la Vierge fidèle à la Délivrante, sauf que les cours se donnent en Angleterre, à Foxton. Pas de problème, les jeunes filles prenaient le bateau au Havre et partaient pour 3 mois, par période de 3 mois, dans cette école Sainte Mary de Foxton, qui malheureusement n'existe plus. Nous avons gardé la maison de Foxton, qui est actuellement le noviciat de nos sœurs indiennes pour la plupart. L'école principale, elle est sur Norwood, un quartier sud de Londres.
Et vous avez des liens aussi avec l'Italie.
Alors l'Italie, pourquoi l'Italie? Eh bien vous vous dites, quand on est congrégation de droit pontifical, on cherche à se rapprocher de Rome. Donc les sœurs ont trouvé en 1926, je crois, une propriété dans ce qu'on appelle les Castelli Romani, au sud-est de Rome et se sont dit on va commencer par s'installer là et puis quand nous aurons les moyens, nous irons nous installer à Rome. En fait, on ne s'est jamais installé à Rome et finalement ça vaut beaucoup mieux parce qu'il y a des embouteillages épouvantables et que le climat y est très chaud l'été, tandis que chez nous, à Grotta Ferrata, on jouit d'un excellent climat. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a là aussi une abbaye catholique de rite byzantin, cette semaine de l'unité des chrétiens. Donc voilà, nous pensons et à nos sœurs, et puis à la badia de Grotta Ferrata.
Quelle est la réalité des sœurs là-bas en Italie ?
Actuellement, nous avons deux communautés, une à Grotta Ferrata, et puis une en Calabre, dans le nord Calabre, à Trebisace. Il est vrai que les sœurs vieillissent et aujourd'hui même nous avons perdu sœur Chiara qui pourtant n'était pas trop âgée, elle avait 81 ans mais n'allait pas très bien. Donc au jour d'aujourd'hui nous avons 3 sœurs à Grotta Ferrata et 4 sœurs à Trebisace. Et à Trebisace ce n'est pas une école, ça l'a été, ça ne l'est plus. C'est une casa familia, une maison familiale pour des enfants issus de milieux difficiles. C'est plus proche de ce qui fut jadis un orphelinat qu'une école. Et donc, les enfants vont à l'école l'école publique et l'après-midi viennent passer les après-midi et les soirées chez nous avec leurs assistantes.
L'Angleterre, l'Italie, il y a aussi la Belgique où nous pouvons vous retrouver et où les sœurs exercent leur mission auprès des établissements scolaires également.
Alors la Belgique, elle est très chère à mon cœur puisque moi-même je suis belge et que j'ai trouvé ma vocation pour la congrégation en étant enseignante dans cette école de Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à Bruxelles ? Eh bien c'est la suite de ce que je vous disais tout à l'heure, ces jeunes filles dont les parents travaillaient pour le gouvernement belge en exil à Londres. Et bien, quelques années plus tard, plusieurs sont entrées dans la congrégation et leurs parents ont dit « Nous avons une telle dette de reconnaissance vis-à-vis de cette famille religieuse que nous souhaitons les voir s'installer à Bruxelles. » Et donc, nous nous sommes installés là-bas en 1926. Et ben, on y est jusqu'à aujourd'hui et l'école va très bien. Il doit y avoir 1200 élèves. Quand je dis l'école, il y a l'école maternelle, primaire, le collège et le lycée.
Depuis le début de l'émission, effectivement, vous évoquez votre travail au sein des établissements scolaires, le lien, vous avez utilisé le terme tutelle. Quelle est concrètement cette relation avec les institutions scolaires et comment est-ce que s'organise votre mission et vos activités en lien avec ces établissements ?
Nous avons mis en place, voilà, une vingtaine d'années, comme beaucoup de congrégations d'ailleurs, un service de la tutelle. Alors le terme de tutelle est vraiment préjudiciable parce que ça évoque des choses assez négatives la plupart du temps. Au contraire, c'est un service que nous souhaitons rendre aux directions laïques. La tutelle s'est mise en place quand ce n'était plus les religieux qui occupaient la fonction de directeur ou chef d'établissement. Donc le service de la tutelle chez nous aujourd'hui est composé d'une dizaine de personnes, un tiers de religieuses, deux tiers de laïcs, hommes et femmes. Et chacun d'entre nous est le référent, est le visage, si vous voulez, plus concret, plus humain, du service de la tutelle. De telle façon que la tutelle, ça ne se résume pas à une présence, à des comités économique, type OGEC ou conseil d'administration en fin d'année. Non, on souhaite vraiment que ce lien entre la congrégation et les établissements reste vivant. Et pour cela, le service de tutelle a mis en place des journées de transmission du charisme, c'est-à-dire où on raconte notre histoire un peu comme je vous la raconte maintenant. Nous mettons donc ces journées en place une fois par an en Normandie, dans le Jura, en Belgique et ailleurs aussi. Et puis, tous les 2 ans, nous avons un vaste rassemblement des délégués de chacun des établissements. Et c'est l'une des écoles qui, à tour de rôle, invite tous les autres. On devait avoir un rassemblement dans le Jura l'an dernier. Il est reporté à la Toussaint de l'année prochaine, si le Covid nous en laisse l'opportunité.
Alors, pour vous, sœur Catherine, en tant que supérieure générale de la communauté, qu'est-ce que vous aimeriez transmettre aux élèves? Qu'est-ce que pour vous, dans ce rôle d'éducation, dans ce rôle vraiment qui est le cœur de votre mission apostolique, vous aimeriez que les enfants puissent se nourrir? Qu'est-ce qui est important pour vous?
Je m'inspire d'une prière établie par les sœurs de Grandchamp qui ont préparé la méditation de cette semaine et je vous la partage parce que je la trouve très belle et que c'est tout à fait ce que nous voudrions dire. Nous prenons part à l'œuvre de l'Esprit pour que dans toute sa plénitude, la création puisse continuer à louer Dieu. Et notre charisme, c'est d'abord de louer Dieu à travers ses créatures, spécialement les plus pauvres et les plus fragiles. De telle façon que la nouveauté de vie que donne le Christ par l'Esprit, eh bien, puisse se transmettre dans notre monde qui a grand besoin d'espérance et de joie.
Donc c'est vraiment cette spiritualité et le fait de remettre le Christ au cœur de la vie humaine que vous souhaitez vraiment transmettre et que vous souhaitez annoncer aussi dans le cœur des jeunes.
Bien sûr, c'est annoncer Jésus-Christ. Bien sûr que c'est l'essentiel, l'annoncer en Église, en partenariat avec nos frères et sœurs chrétiens, à la manière de Mère Sainte Marie, à la manière d'une fondatrice, selon les valeurs qui étaient les siennes. Et pour elle, au plan pédagogique, l'enfant est une personne, le respect de chacun, et puis de la patience, beaucoup de patience et même un peu d'humour.
Et donc vous accompagnez les équipes pédagogiques à prendre en compte vraiment cette dimension globale de l'enfant, cette dimension à la fois spirituelle, mais aussi voilà d'une pensée, d'une âme éduquée et qui contribue aussi à construire un monde meilleur.
Bien sûr, l'éducation, c'est s'intéresser à tout ce qui fait la vie de l'enfant, de l'adolescent, dans le corps, l'esprit, l'âme, la beauté, tout est important. Toutes les dimensions de la personne humaine sont prises en considération. Et en ce sens, la spiritualité de Saint Ignace nous y aide beaucoup.
Alors, sœur Catherine, nous avons évoqué votre rayonnement au-delà des frontières françaises, mais il n'y a pas que la maison mère ici en France. Vous avez aussi d'autres lieux de présence où des communautés sont encore en activité, et notamment à Paris, dans la région parisienne.
Mais oui, Sonia, Paris, l'attrait de la capitale. Donc, nous sommes partis vers Paris, à la fin du XIXe siècle. Les premiers essais sont restés infructueux et c'est en 1925 que nous avons repris l'œuvre Sainte-Madeleine. C'était une Belge, la baronne de Brigode, qui avait fondé cela pour les jeunes mères célibataires. Et comme la maison était très bien située à proximité de l'Institut catholique à Montparnasse, assez rapidement, nous avons délocalisé l'œuvre à la demande de l'archevêché de Paris en région parisienne, à Thiers. Cette œuvre-là, elle a duré jusqu'en 1990. On n'était plus assez nombreuses pour la mener à bien. Une œuvre qui permettait aux futures mamans de mener leur grossesse à terme et puis aussi d'éduquer leur enfant pendant la première année. Et alors donc, sur le site de Montparnasse, nous avons construit vers 1935 un vaste foyer d'étudiantes qui accueille les jeunes filles, donc jusqu'à aujourd'hui. Et dans les dernières années, on en accueillait jusqu'à 150.
Et puis la communauté et la congrégation poursuivent aujourd'hui leur rayonnement et c'est jusqu'aux frontières de l'Inde que vous essayez encore d'assurer des partenariats, voire que de grands projets se profilent.
Alors, nous n'essayons pas de créer des partenariats, nous recevons les grâces que le Seigneur envoie. Et la grâce a été vers l'an 2000 d'accueillir à Londres deux prêtres religieux de la congrégation Carme de Marie Immaculée qui nous demandaient l'hospitalité, le temps de terminer leur thèse. Et ça leur a été accordé, ainsi que possibilité de donner cours de religion dans l'école. Et ils nous en ont été très reconnaissants et nous ont dit « Mais nous voyons que vous vieillissez quelque peu, c'est quel dommage, nous avons la possibilité de vous envoyer des cousines, des sœurs, des amis, des tantes, pourquoi pas, des personnes que nous connaissons qui aspirent à la vie religieuse. Accepteriez-vous de les accueillir ?» Et donc, très vite, à partir de 2005... Ce projet s'est constitué donc doucement et au jour d'aujourd'hui donc nous avons une douzaine de sœurs indiennes dans la congrégation. Nous avons créé une communauté à côté de Thrissur au Kerala, donc une petite ville qui s'appelle Varandarapilli. Donc nous y avons une maison et une petite communauté de deux ou trois sœurs qui peut servir de tremplin, si vous voulez, pour des futures postulantes ou encore pour nos sœurs insérées dans nos différentes communautés européennes quand elles rentrent au pays. Un point de chute si elles ne veulent pas forcément passer tout leur séjour dans la famille.
Un très grand merci à vous, sœur Catherine, de nous avoir fait voyager. Et nous nous retrouverons très prochainement cette fois-ci pour évoquer, eh bien cette fois-ci, votre parcours à vous et votre témoignage de foi. Merci, à très bientôt.
Merci Sonia, merci.